Donc je vais démarrer, en fait l'idée c'était de témoigner un petit peu de nous, techniciens agroforestiers, comment on travaille avec les agriculteurs sur ces projets d'implantation agroforestière. Nos démarches, on la formalise à peine, voilà, j'ai différentes étapes, ça fait académique, mais en fait c'est vrai que quand on travaille on se rend compte que c'est important de bien suivre dans l'ordre, quoi. Donc je vais tout simplement lister, je vais vous raconter l'histoire de l'installation d'un projet agroforestier. Et si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Et Samuel, il appuiera particulièrement sur certains points, les points les plus difficiles dans nos projets agroforestiers. Donc la première étape, on peut planter des arbres parce qu'on aime les arbres, mais on aime bien quand même définir pourquoi on plante un arbre. Quel est l'objectif de la plantation? Là, chez l'éleveur, pourquoi on a planté? On veut planter des arbres en élevage. On veut faire des arbres fourragers. Concrètement, l'arbre fourrager, c'est pour quel type de bétail? C'est pour quelle période de l'année? On va adapter nos systèmes agroforestiers à des thématiques qui peuvent être très précises. Dans les objectifs, il peut y avoir des choses qui paraissent secondaires, mais qui parfois sont très importantes pour l'agriculteur. Et nous, on répond avant tout à la demande de l'agriculteur. Donc dans ces choses qu'on peut penser secondaires, le côté paysager dont on a parlé ce matin, ça peut être quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à mettre sur la table si c'est vraiment l'objectif de la plantation. Sur cette phase définition des objectifs, il faut délirer, il faut se faire plaisir, il faut imaginer plein de choses et être innovant, quoi. Après, la deuxième étape, c'est un peu moins rigolo, c'est le diagnostic. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On ne peut pas mettre du noyer sur n'importe quel terrain. Voilà. Donc déjà, quelque chose qui paraît évident, analyse de sol, analyse de la pluviométrie, la topographie de la parcelle. Donc ça, c'est le projet agroforestier sur cette parcelle. Mais après, c'est le territoire, les trames vertes et bleues, comment on peut s'intégrer là-dedans. C'est le porteur de projet. J'ai des porteurs de projet qui sont fils de pépiniéristes. Alors là, c'est facile, quoi. Le gars, il a la sensibilité de l'arbre, il sait faire, c'est sa passion. Il y en a d'autres, ils n'en ont rien à faire. Ils ont juste compris qu'il y avait un intérêt et ils veulent que ça le remplisse, mais eux, ça ne les intéresse pas plus que ça. Donc, est-ce qu'il faut les former? Est-ce qu'il faut sous-traiter? Est-ce qu'il y a du temps disponible pour apprendre? Voilà, donc ça, à l'échelle du porteur de projet, de l'agriculteur, c'est important pour nous de comprendre et de savoir avec qui on travaille. Sur le diagnostic, voilà. Donc, on a imaginé des choses incroyables. On regarde ce qui est possible de faire. La mécanisation, je n'ai pas cité. Et puis après, avec l'agriculteur, on peut inviter aussi les chasseurs, on peut inviter les environnementalistes. On va dessiner le projet. Donc là, il ne faut pas s'embêter, on prend un dessin, une photo aérienne, on dessine et on essaye de se rendre compte de ce à quoi ça pourrait ressembler. Alors on pose les lignes. Après, il faut aussi définir qu'est-ce qu'on a sur la ligne. Là, on a un arbre tous les 9 mètres répété sur toute la longueur. Vous verrez demain à Lusignan, des fois, ce n'est pas une seule ligne, c'est une double ou une triple ligne avec des lianes intercalées, avec des arbustes hauts, des arbustes bas, des arbres fruitiers. Enfin, là, il y a des choses, il y a énormément de possibilités, quoi. Donc là, en fonction des objectifs, on a des séquences de plantation qui sont différentes. Donc on a dessiné. Après, concrètement, comment on réalise ça? Donc le choix des fournitures. Quatrième étape, à peu près. Ouais. Donc le choix des essences. Donc on a dit qu'on ne met pas du noyer de partout. En général, quel que soit l'objectif, si on veut faire de l'arbre fourrager, par exemple, le mûrier est un super arbre fourrager. Mais le mûrier, il ne sera pas un super arbre fourrager s'il n'est pas sur les sols qui lui conviennent. Donc dans ce cas-là, on reste sur des essences locales qui exprimeront tout leur potentiel, plutôt que d'avoir une essence à fort potentiel qui ne l'exprime pas. Donc le choix des essences. On regarde aussi, c'est important, la forme du plant qu'on va acheter. Donc est-ce que c'est on plante en racine nue, on plante en godet? La provenance du plant, la qualité génétique, est-ce que c'est du matériel forestier de reproduction? Donc ce qu'on va rechercher pour avoir une certaine traçabilité sur la qualité du plant. Le label végétal local de la fac agroforesterie sur les arbustes. Donc voilà pour le choix des essences. Pour les fruitiers, on rajoute une couche, il faut choisir le porte-greffe, il faut choisir la variété. Ça, c'est du boulot aussi. Et puis après, on va choisir protection et paillage. C'est les deux autres éléments qui sont assez importants dans les choix techniques. La protection pour protéger les jeunes arbres du gibier et du bétail. Voilà. Et puis le paillage pour aider, on aide quand même nos arbres les premières années à bien s'installer, à être vigoureux, pour se sortir le plus vite possible d'affaires, notamment par rapport à ce qui peut créer des dommages. Juste pour avoir un repère, un arbre forestier, comme il a été planté ici, ça coûte 1 euro.
Ça dépend de la qualité que tu prends.
Allez, 2 euros.
Et de la taille.
Et de la taille.
fait celui-là bon. 2 ou 3 ans.
Ça coûte 2 euros. Voilà. Ça coûte 2 euros. 2,24 euros. En fonction, une protection comme ça, les fournitures plus la pose, tout ça, si on compte, c'est à peu près une petite dizaine d'euros. D'accord ? Si on plante une protection avec une protection individuelle pour du pré-verger, une protection individuelle pour des bovins, avec, si on a un problème de campagnol, on met un grillage dans le potet de plantation, on peut arriver à 100-120 euros de coût de protection par arbre. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut, on essaye aussi de faire comprendre aux agriculteurs que si on veut qu'un projet réussisse, voilà, il ne suffit pas de planter un arbre.
Attention au chapeau avec Dave là-bas derrière, ça va pas le faire.
Donc voilà, faut pas lésiner sur les moyens, et protection paillage, c'est vraiment deux éléments essentiels de la réussite du projet.
Il faut se donner le moyen de ses ambitions, et selon le projet, la densité, les essences et les protections, vous l'avez compris, on va osciller entre 700 et 1300 euros à peu près de coût d'implantation à l'hectare.
Tout compris. Les prévergés à 40 euros de l'arbre fruitier greffé.
Ah oui, mais là...
3000 euros. Ouais. Donc voilà, on a choisi les fournitures. Après, on prépare la plantation. Donc une étape quasi incontournable, même si on en discute, c'est le décompactage des lignes de plantation. On sait que les arbres qui sont plantés sur des sols travaillés vont avoir un enracinement plus important, ou en tout cas plus rapide. Et ça, c'est évident sur les arbres fruitiers, un peu moins sur les arbres forestiers. Un arbre qui est freiné, qui est mis en concurrence les premières années, qui est un peu chétif les premières années, il ne rattrapera jamais le retard. Ça restera un arbre chétif et peu vigoureux. Donc une règle, c'est pendant 3 ans, zéro concurrence herbacée sur un mètre carré autour de l'arbre. Un mètre carré, c'est simple, c'est un pas sur un pas.
Là, vous voyez le paillage, on utilise de la paille sur ces territoires-là, c'est ce qu'on trouve le plus facilement, ce qui est le moins cher. Vous avez à peu près 15 kg de paille par plant.
Plan, protection, paillage, décompactage. Alors après, on fait le piquetage linéaire, donc s'assurer que nos lignes sont bien droites. Surtout si vous travaillez comme Christophe dans la Beauce et qu'il y a des pulvées de 36 mètres. Le pulvée, à la fin, il ne faut pas qu'il tape sur les arbres sur le côté, quoi. Donc là, c'est GPS ou c'est à la corde. Et puis après, la plantation. Donc comme nous, on plante relativement peu d'arbres, voire très peu d'arbres par rapport aux forestiers, c'est vrai qu'on va soigner un peu plus les plantations. On fait des potets, ce qu'on appelle en potets. Donc on ne fait pas simplement une fente où on visse l'arbre. On vient dégager de la terre, on positionne notre arbre et on remet. Plantation, et puis après, il y a le suivi. Donc là, c'est la taille. Et Samuel,
je voulais parler un peu de la difficulté effectivement qu'on rencontre à obtenir des beaux projets avec des plantations régulières. On va peut-être être obligé de se rentrer. On se rentre avant là peut-être.
C'est sûr qu'on va prendre en tout cas.
On va se mettre dans le hangar ou c'est.
Mais ça rafraîchit.
Donc on a des difficultés sur les projets agroforestiers réels parce que les arbres sont effectivement complètement exposés à l'intérieur de la parcelle. Ils sont exposés notamment au gibier, enfin pas qu'au gibier, aux animaux sauvages. Aux animaux sauvages effectivement qui vont se nourrir de ces arbres-là, et donc notamment le chevreuil. Si on est dans une plantation forestière à 1600 plants à l'hectare, vous comprenez que les dégâts ils sont dilués et de toute façon au final on va avoir que 100 arbres hectares en forêt. Donc on plante beaucoup et on se donne la possibilité effectivement d'en perdre beaucoup. Ici on plante à densité définitive, donc il va falloir suivre énormément et vraiment bien protéger son arbre. C'est pour ça qu'on met ces protections là. On a des grosses densités de chevreuils qui viennent manger à la fois les plants, les broutés, mais qui viennent aussi se frotter dessus parce que c'est pas qu'une nourriture, c'est aussi un lieu pour marquer son territoire. Pour certains animaux comme le frelon, ça peut être un matériau de construction. Ils viennent écorcer les arbres pour construire leur nid avec la cellulose. Pour les mulots, ce paillage là, et puis avec ses racines au pied, on le salinera, ça peut être un milieu très très favorable, ils sont très très bien. Et puis à côté de ça, dans certaines parcelles, on a aussi de l'élevage, et les animaux d'élevage sont aussi très très friands. Tous les animaux d'élevage sont très friands des feuilles d'arbres. Il suffit de regarder un peu l'état de la haie, vous voyez que la haie... Alors Philippe, tu tailles jamais tes haies, je crois. Donc là, ce qui a taillé la haie, c'est les animaux, c'est les chevaux. Donc ils mangent, ils consomment des arbres parce qu'ils aiment vraiment ça. Donc il va falloir protéger les arbres, et d'autant plus quand on a du bovin ou des chevaux. De manière assez forte. Et avec l'expérience, on s'est aperçu, vous avez dans les documents les différents types de protection contre le bétail. Donc, je ne vais pas toutes les détailler parce qu'on n'a pas le temps. Donc il y a soit des protections individuelles, mais qui sont souvent très coûteuses. Donc, on a quasiment abandonné ça, sauf dans le cadre de petits projets, de petites surfaces. Il y a une parcelle à l'INRA, on sera en face demain, donc on pourra y regarder. Et quand on a des grandes parcelles comme ici, aujourd'hui, quasiment tout le monde protège avec des clôtures de chaque côté de la ligne. Même s'il y a une perte, effectivement, on ne peut pas venir pâturer ce pied de ligne. Mais malgré tout, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Souvent avec de l'électrique. Ici, c'est des clôtures amovibles, déplaçables. Ça coûte pas cher et c'est facile à implanter. Les chevaux sont là.
Si on veut faire du bois d'œuf, par exemple, ça va très très vite en 5 ans. Si vous avez jamais taillé, faut même pas espérer faire du bois d'œuf, quoi.
Même au-delà, je dirais qu'il faut passer tous les ans.
Tous les ans, il y a quelque chose à faire. Si vous passez tous les ans et que vous avez suivi la formation du conseiller agroforestier, vous êtes venu voir avec votre sécateur, vous avez taillé avec lui, voire vous l'avez appelé, il est venu chez vous tailler, vous a réexpliqué. Quelqu'un qui sait tailler, il met une heure par hectare et par an. C'est pas le bout du monde, mais par contre, moi j'ai des agroforestiers qui ne l'ont pas fait pendant 2 ans, c'est bois de chauffage. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds qui sont tellement conséquents, les arbres poussent tellement vite en système agroforestier, qu'on ne peut pas les récupérer, je pense en l'occurrence aux meurilles. Donc de la taille, c'est nécessaire et fréquemment.
Un autre élément qui est simple à comprendre, si on taille chaque année, on taille au sécateur. Si on taille tous les 2 ans, on taille à la scie. Donc on met beaucoup plus de temps, ça cicatrise mal. Et en fait, la branche que vous avez enlevée, c'est de la biomasse qui n'a pas été mise dans la croissance, quoi. Donc vraiment, taillez chaque année.
Donc, si vous avez des questions pour nous, on va s'arrêter puis je vais passer la parole.